Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui fait le pont chaque après-midi entre le passé et le présent. Justement, c'est une idée dans l'air du temps. Et si on rétablissait le service militaire? Pour en parler, un homme qui, lui, n'a pas fait son service militaire, il a été réformé après des essais jugés non concluants.
Oh, les mains.
Bonjour mon colonel, bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu Noël. Je signale à nos auditeurs que vous non plus, vous n'avez pas effectué votre service militaire. Mais nous ne sommes pas les seuls. Nos personnages du jour non plus, c'était des vrais réfractaires au service militaire.
Sir, no sir!
Eh oui, ils ont dit non. À commencer par un artiste de génie qui a refusé de faire son service militaire en Espagne, Pablo Picasso. Pour lui, l'art était plus fort que les armes, vous verrez. Je vous raconte le destin de ce peintre resté toute sa vie un étranger en France qui a fini par combattre à sa manière. Puis, je vous raconte l'un des plus grands dramaturges anglais du XXe siècle qui a lui aussi échappé au service militaire selon sa propre volonté. C'était l'auteur Harold Pinter. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un réfractaire au service militaire plus contemporain.
Oui Stéphane, il est coréen, il s'appelle Jang Yoon-so, c'est un joueur de foot professionnel qui a essayé lui aussi d'échapper au service militaire. Sauf qu'en Corée du Sud, on ne plaisante pas du tout avec le service militaire. Il a été suspendu à vie de l'équipe nationale, un portrait des paysans, puisqu'il sera certainement émaillé d'extraits sonores de vous, Stéphane, tentant d'imiter approximativement un chinois.
What a ?
Puisque vous, pour vous, chinois, coréen, tout ça,
non,
c'est pareil.
C'est pour vous. Ah, non. Ne mouillez pas. Cela dit, il aura eu des difficultés en Corée du Sud, mais c'est rien à côté de la Corée du Nord.
Du Nord, effectivement, là, il aurait été mort, tout simplement.
Avec nous, comme chaque jour, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes de ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Écoutez, le service militaire c'est bien, le coup d'état militaire c'est mieux. Et comme aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre 2021, on commémore le 170e anniversaire du coup d'état du 2 décembre 1851. Je ne célèbre rien du tout, j'ai dit je commémore. Enfin, c'est le coup d'état qui fait de notre premier président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, l'empereur Napoléon III, dans la nuit des aventuriers. Nicolas Chaudin nous raconte cet événement de l'intérieur, depuis le salon de l'Élysée où fut fomentée l'opération Rubicon.
Il célèbre lui aussi le 2 décembre, puisque vous faisiez partie, David, de l'amicale des anciens
souvenirs napoléoniens. J'y pense à chaque 2 décembre. Ah, je pense.
Moi aussi, c'est une date vraiment mémorable. Mais aujourd'hui, il va nous mettre au parfum. C'est David Cassoul-Lopez, il revient sur l'origine d'une invention, d'une création.
Oui, d'un parfum qui fête ses 100 ans cette année et qui est le Chanel numéro 5. Ah, oui. Le seul parfum, je pense, que tout le monde peut citer.
Le parfum le plus célèbre.
Celui qui habillait Marilyn Monroe.
Une goutte de Chanel numéro 5.
Et puis, avec Olivier Poul,
d'autres odeurs qui arrivent.
Oui, tout d'un coup, une gourmandise qui a un nom très Quai d'Orsay.
Oui. Et ce n'est pas sans raison d'ailleurs, vous verrez, la surprenante histoire du diplomate.
On fait un petit point sur ce qu'est le diplomate.
C'est une pâtisserie composée de fruits secs, de crème anglaise, de pâtes briochées. Un truc un peu léger, vous voyez.
Ça, c'est pas anglais. On servait
au
repas de Monsieur l'ambassadeur.
C'est absolument français. Vous verrez qu'il y a une histoire très précise autour de la création de cette
pâtisserie. On sent que vous n'êtes pas là pour déconner aujourd'hui.
Je suis très sûr de moi. Oui. J'ai une date à vous donner même.
Il est solide sur ses appuis. On entendra une date tout à l'heure au moment de sa chronique. Enfin, être diplomate, ce n'est pas mon genre. Quand vient l'heure du quiz, Bern to be alive, un jeu qui échappe totalement aux règles de la Convention de Genève sur la torture et où tous les coups sont permis, surtout les plus bas. Rendez-vous évidemment vers 5h moins le quart. Mais tout de suite, partons à la rencontre de notre premier personnage du jour.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Quand ils ont pris les armes, lui a pris ses pinceaux. Un peintre de génie qui prenait la paix dans un pays, la France, où il n'était qu'un étranger. Un artiste qui a fini par s'engager à sa manière, sans faire son service militaire. Stéphane Bern nous raconte Pablo Picasso.
Nous sommes en 1895 à Barcelone. Pablo Picasso a 14 ans et déjà un sacré coup de crayon. Il réalise à l'encre une scène de bataille, c'est son nom. Puis une représentation de deux soldats à cheval griffonnés sur un cahier d'école. Ceci témoigne-t-il d'un attrait pour la chose militaire? On se permettra d'en douter. La guerre, Picasso, ça n'a pas l'air de lui plaire. puisque quand vient le moment en 1899 de faire son service militaire, il n'est pas très motivé. Il faut dire que le dernier conflit qu'a connu l'Espagne, un an auparavant contre les États-Unis, vient de voir s'envoler dans la déroute les dernières miettes d'un empire colonial agonisant. La guerre pour la défaite, à quoi bon ? Pour lui, la guerre est de toute façon toujours une défaite. Pablo Picasso n'est pas anti-patriotique, il est anti-militariste. Alors, lorsqu'il est appelé sous les drapeaux, il préfère décliner. C'est simple, à l'époque, il suffit juste de payer. Cela tombe bien, la famille Picasso a de quoi régler la note. C'est son oncle, médecin réputé, qui s'en acquitte. La guerre des canons et des fusils n'intéresse pas Picasso. Il a mieux à faire avec l'art, qui est et restera son unique arme tout au long de son existence, qui traversera les conflits d'un XXe siècle belliqueux et destructeur. Cette année 1899, Picasso, tout juste majeur, vit dans le bouillonnement artistique de Barcelone et lorsqu'une de ses toiles est choisie pour être exposée au pavillon espagnol de l'Exposition universelle de Paris, il en profite pour prendre le large. Picasso fait d'ailleurs plusieurs séjours dans la capitale avant de s'installer définitivement à Paris en 1904. Il rejoint la communauté catalane qui s'ébroue dans la bohème de Montmartre, le repère du petit peuple, des prostituées, des brigands, des artistes et tout ce que la ville compte de transgressif. Dans ce petit monde, surveillé de près par la préfecture de police, l'artiste se retrouve vite fiché. Étranger, ami avec des anarchistes, il n'en fallait pas plus pour ouvrir son dossier qui porte le numéro 64664 et qui le suivra toute sa vie. Dans ce dossier, il y est notamment inscrit noir et blanc qu'en 1914, quand le premier conflit mondial éclate, Picasso n'a pas participé à l'effort de guerre. Sa nationalité espagnole, pays neutre, l'empêchait en effet d'être automatiquement mobilisé. Et il a vécu le conflit comme par procuration, échangeant avec ses amis Braque, Léger ou Apollinaire, lui aussi étranger, parti au front. Certains le traiteront même de planqué, passant le conflit à l'abri des obus, travaillant à ses toiles ou de somptueux décors pour les ballets russes. Car Picasso est avant tout un artiste qui ne peut s'empêcher de créer. Après ces périodes bleues et roses au début du siècle, il ouvre de nouvelles voies à la peinture avec ses fameuses Demoiselles d'Avignon en 1907 et le développement révolutionnaire du cubisme aux côtés de son ami Georges Braque dans les années qui suivent. Picasso est à l'avant-garde et il le sait. Un ténor qui donne une note plus haute que celle de la partition « Moi », comme il l'écrit dans l'un de ses carnets. Malgré le drame du séquestre de ses œuvres pendant la guerre, son galeriste était allemand, et leur dilapidation après le conflit, sa cote augmente et la renommée arrive enfin. Dans les années 20 et 30, Picasso devient célèbre et respecté partout, de l'Europe aux États-Unis, partout sauf en France. Il y jouit bien sûr d'une notoriété dans un milieu initié, mais il ne reçoit pas vraiment les honneurs des institutions, qu'il s'agisse des musées ou de l'administration. Car oui, alors qu'il vit en France depuis 35 ans, il possède des propriétés, y a établi femmes et enfants, la nationalité française lui est refusée la seule fois où il en a fait la demande, en 1940. La guerre, encore une, a commencé et il ne fait pas bon être étranger dans la France qui parque les ressortissants des pays ennemis dans des camps, même si l'Espagne ne fait pas partie des belligérants. Le 3 avril 1940, Picasso demande officiellement sa naturalisation auprès du garde des Sceaux. Il connaît du monde, jouit de nombreux appuis. L'affaire devrait être entendue rapidement. Le premier rapport du commissariat du 8e arrondissement, où il réside, donne son accord, presque avec enthousiasme. Mais les renseignements généraux sont missionnés pour avis supplétif. La conclusion est sans appel. Cet étranger n'a aucun titre pour obtenir la naturalisation. D'ailleurs, il doit être considéré comme très suspect au point de vue national. Un officier zélé a relu tout le dossier. Le soi-disant anarchisme du début du siècle, la guerre de 14, loin du front, le soutien aux républicains espagnols pendant la guerre civile qui déchira son pays d'origine, ses accointances communistes. Picasso est suspect. Ajoutez à cela qu'il a été classé par les nazis dans la case des artistes dégénérés, qu'il est célèbre pour avoir en 1937 manifesté sa haine de la caste militaire et du fascisme dans son immense toile intitulée Guernica, en hommage à l'un des villages basques ruinés par les bombardiers allemands et italiens alliés du général Franco. Et Picasso est presque un paria. Riche et célèbre, certes, mais condamné à rester un étranger dans le pays où il vit depuis si longtemps. Picasso passe la guerre confiné à peindre dans son atelier parisien. Mais il va changer. car s'il a toujours fait preuve d'une certaine discrétion, voire d'une timidité dans l'engagement politique, en permanence refroidi par son statut d'étranger, si l'art lui a toujours permis de se tenir à distance des contingences du monde, à la sortie du conflit, il est désormais un combattant. À sa manière, bien sûr. Déjà, les années 30 et la montée du fascisme l'avaient poussé à s'impliquer. La guerre civile qui ravage l'Espagne entre 1936 et 39 le blesse profondément et il joue de toute sa notoriété et de sa richesse pour soutenir discrètement les républicains, ceux exilés en France ou combattants en Espagne. Ses dessins « Songe et mort de Franco » ou son immense tableau « Guernica » avaient déjà illustré ce qu'il dira lui-même en 1945. Non, la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. C'est un instrument de guerre offensive et défensive contre l'ennemi. Et le véritable ennemi, c'est la guerre. Je suis pour la vie contre la mort. Je suis pour la paix contre la guerre, clame-t-il. Dès la libération, Picasso adhère au Parti communiste, auquel il restera fidèle malgré l'histoire que l'on connaît et les contradictions apparentes d'un millionnaire socialiste. Il y voit toujours le meilleur moyen de prôner un pacifisme qu'il a chevillé au corps. En août 1948, Picasso se rend au Congrès mondial des intellectuels pour la paix de Wroclaw, en Pologne. Et l'année suivante, alors que se tient un nouveau congrès pour la paix à Paris, il dessine, à la demande de son ami Aragon, l'affiche représentant une colombe qui deviendra pour longtemps le symbole du pacifisme. Son engagement pour la paix est désormais une permanence, l'immuabilité d'une conscience politique, en contraste avec l'agitation esthétique, l'hétérogénéité et le foisonnement de sa production artistique, une production vaste qu'il est bien compliqué de définir, tant elle ne se fait pas dans une linéaire continuité. Après avoir révolutionné la peinture et ouvert d'immenses brèches au début de sa carrière, la suite ne sera que retours et avancées, sauts extrêmes dans une liberté qui crée un tout. Picasso est une forme de mouvement perpétuel, avait dit le critique André Varnaud en 1925, et le travail de l'artiste jusqu'à sa mort en 1973 lui donne raison. Une mort qui arrive malheureusement avant celle du général Franco et le rétablissement de la démocratie en Espagne que Picasso appelait de ses voeux pour rentrer un jour dans son pays. C'est donc en France, mais éternellement étranger, qu'il termine sa vie, puisqu'il a refusé la nationalité que les autorités lui avaient finalement octroyée. Mais faute de citoyenneté, une reconnaissance de son art est peut-être encore un plus grand honneur quand il fut, en 1971, le premier artiste exposé au musée du Louvre de son vivant. Cela vaut bien toutes les cartes d'identité du monde.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Pablo Picasso, nous avons le plaisir d'accueillir l'historienne et écrivaine qui lui consacre un livre qui lui a valu le prix Femina de l'essai 2021. Bonjour Annie Cohen-Solal.
Bonjour.
Bonjour Annie Cohen-Solal. Félicitations d'abord pour commencer, parce que vous avez en effet écrit Un étranger nommé Picasso, un essai passionnant, une enquête qui nous a permis d'ailleurs d'enrichir notre récit en lien avec l'exposition Picasso l'étranger qui a lieu actuellement au musée de l'histoire de l'immigration à Paris, dans le 12e arrondissement. Le statut de Picasso étranger en France est assez méconnu. Aujourd'hui, quand on entend son nom, on pense à ses œuvres, à Guernica, la femme qui pleure, au cubisme. Le fait qu'il ait vécu pendant des années humilié en tant qu'étranger en France, à devoir faire renouveler sa carte de séjour tous les deux ans, comme vous l'écrivez, est complètement passé sous silence. C'est lui qui l'a toujours caché ou c'est la France qui voulait l'oublier?
En fait, il n'en a jamais parlé. Picasso ne parlait peu, s'exprimait peu, il y a très peu d'entretiens avec lui. Comme vous l'avez très justement dit, Picasso est quelqu'un qui ne pensait qu'à son art. Et les blessures, les défaites, les humiliations, il n'en a jamais parlé. Alors, on se demande, quand on est historien, est-ce qu'on a le droit de dévoiler des choses secrètes, des choses cachées? Et il m'a semblé qu'il était intéressant, par contre, de regarder comment il s'en était sorti. Parce que, comme vous l'avez dit très bien, il arrive à Paris, il a 18 ans, et il sait qu'il est un génie. Il a recopié un tableau de Velázquez au Prado, un portrait de Philippe IV par Velázquez à l'âge de 14 ans, qui était plus beau que le Velázquez. Et donc tout le monde à Barcelone savait que Pablo, il était génial. Bon, il arrive à Paris et ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. Parce que la France est un empire, et un empire colonial, avec une espèce d'arrogance absolue sur toutes les autres cultures, surtout celles qui viennent du Sud.
Un point
donc,
sur cette
il faut
France.
Voir cette espèce de déséquilibre, vous voyez ce que
j'ai... Oui, oui. Un point sur cette France de 1904,
oui, vous avez raison, oui.
C'est-à-dire que c'était un milieu hostile presque pour les étrangers, c'est pas du tout, on l'accueille pas du tout à bras ouverts, c'est très compliqué pour
voilà.
le lieu au départ.
Donc, il arrive en 1900, c'est la France de l'affaire Dreyfus, c'est avec ces espèces de conflits endémiques dans la population, et c'est surtout la France des attentats anarchistes. N'oublions pas que le président Sadi Carnot a été assassiné en 1894 par un anarchiste italien. Donc il y a eu aussi des revanches des ouvriers français qui ont fait des pogroms contre les Italiens, qui ont tué des Italiens. Il y a beaucoup de violence. Et il y a beaucoup, si vous voulez, dès qu'il y a des crises économiques, après, on fait appel à la main-d'œuvre immigrée étrangère. Et après, les Français disent oui, ils viennent nous prendre notre pain. Vous voyez ? Donc, effectivement, être étranger, c'est pas bon dans des moments de crise, des moments de drame comme les guerres. Et Picasso lui-même, donc, il va participer de ce groupe d'étrangers qui ont comme règle de se présenter au commissariat de police chaque fois qu'ils arrivent en France, chaque fois qu'ils déménagent, et tous les deux ans. Et puis, à partir de 1937, il devra mettre ses empreintes digitales. Et les empreintes digitales, ça doit être particulièrement humiliant pour lui, puisqu'on voit qu'à ce moment-là, il fait des œuvres avec des empreintes digitales que lui va mettre sur ses œuvres. Donc, il n'est plus l'objet de ces empreintes digitales où quelqu'un lui prend la main et lui presse, mais il est le sujet. Donc, il faut voir ce que ça doit être pour quelqu'un qui sait qu'il est un génie. Il pense avec les grands hommes, il discute avec Velázquez et Goya, vous voyez. Et là, France, elle le traite comme... comme un mec qui est bizarre, qui est un loubar, qui est zarbi, qui est tout ce qu'on veut.
Mais pourquoi est-il resté alors? Oui.
Il est resté parce que Stéphane, c'est évident, Paris, c'est le centre du monde pour un artiste. Si vous voulez, lui, c'est ce qu'on appelle un expatrié professionnel. Il ne vient pas sur un canot pneumatique avec un danger de se tromper. Il ne faut pas tout mélanger.
Oui, oui,
ce n'est pas un migrant comme aujourd'hui. Mais il vient... Comme tous les artistes se sont toujours déplacés, un artiste, c'est la plupart du temps un expatrié. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche le marché, il cherche des mécènes, il cherche des galeries. C'est ça que cherche un artiste. Or, c'est rarissime que vous l'ayez dans la ville où vous êtes né.
Alors, Picasso, on l'a dit, n'a pas fait son service militaire dans son pays, l'Espagne. Est-ce que c'est quelque chose qu'on lui a reproché, justement?
Certains lui ont reproché, oui, certains lui ont... Mais je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'il ne s'intéressait pas à la politique et aux guerres. Picasso, il était au courant de tout. Il savait tout ce qui se passait.
La Guernica.
Oui, bien sûr.
Exactement, c'est son chef-d'œuvre. Il a repéré ce qu'était un bombardement sur une population civile. Donc, il est très, très au courant des guerres. Simplement, il ne veut pas s'engager. C'est sa marque de fabrique. Et d'ailleurs, il s'engage autrement.
Il s'engage
autrement dans Guernica. Ce n'est pas un engagement. Guernica,
oui,
c'est
un
engagement.
Et son art est virulent, on peut le dire comme ça. Si
bien
lui,
sûr.
Sa parole ne l'est pas, son art l'est.
Non, mais plus que ça, si vous voulez. Donc, c'est le fils d'un professeur de l'Académie des Beaux-Arts de Barcelone. Donc, il va attaquer son père. Son père peignait des pigeons. Il faut aller voir ça, c'est marrant. Et le gamin peignait les pattes du pigeon. Et quand le gamin a eu 14 ans, le père a cassé ses pinceaux, il les a offerts à son fils en disant « t'es plus fort que moi ». Bon, voilà. Mais par rapport à ça, il va dépasser évidemment la tradition du père. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va subvertir. En France, on a les arts majeurs que sont la peinture et la sculpture. Et les arts mineurs qu'est l'artisanat, ferronnerie, machin. Et Picasso, il va faire entrer les arts mineurs dans les arts majeurs. Il va subvertir cette hiérarchie. C'est ça qu'il fait dans le cubisme avec Braque. Braque, il est formé comme artisan d'une tradition de 3 générations d'artisans. Il va lui apprendre comment peindre avec un peigne. Et ça, c'est très provocateur en France, vous voyez. Et il va revenir vers ses provocations quand il est surréaliste. Il va faire, par exemple, vous verrez, un profil de femme magnifique avec des ordures, quoi. Il prend quelque chose dans les déchets et il en fait une sculpture. Il va retourner à l'artisanat quand il va à Valoris en 1955-46 et qui devient céramiste. Mais le plus grand des céramistes, en prenant modèle sur les céramistes de la Grèce antique, etc. Et des céramiques sublimes qu'il va vendre pour peu d'argent sur le trottoir de Valoris à tout le monde, vous voyez. Donc il y a chez lui quelque chose de démocratique. Donc il veut subvertir cet art qui est pour l'élite, par exemple. Regardez, en France, on ne veut pas de ses œuvres. Quand il y a des conservateurs qui veulent en acheter, la Réunion des musées nationaux refuse. Bon, ça c'est démontré. Alors, Picasso, dès qu'il adhère au Parti communiste, pourquoi adhère-t-il? Il adhère en 1944, pourquoi? Un, il a le cœur à gauche de toute façon, et on est en octobre 1944, quand Torres va entrer au gouvernement de Gaulle, et quand le Parti communiste est celui, le fameux parti des fusillés de la résistance, et ça va donner à Picasso une immense visibilité. ça va être un bouclier et ça va lui donner une patrie, comme il dit, vous voyez. Et j'ai découvert un dossier d'archives au musée Picasso. Dès qu'il adhère au Parti communiste, immédiatement, il y a des lettres qui lui arrivent de toute la France, des maires communistes, des directeurs de musées communistes. Par exemple, Boulogne-sur-Mer, il y a un type qui lui dit, voilà, les ouvriers d'Outreau qui ont fait la grève, ben, on ne peut pas leur donner une exposition Picasso avec des originaux. Mais eux, ils sont moins snobs que les gens de Paris. Mmh. Ça vaudrait la peine. Et Picasso envoie des œuvres. Il envoie des œuvres partout. Il envoie des œuvres à Saint-Étienne. Donc Picasso devient un vecteur de modernisation de la France et de décentralisation de la France bien avant Jacques Lang. Et il est bienfaiteur providentiel de notre pays. Donc il y a quelque chose d'assez fascinant dans le fait qu'il retourne ses stigmates, vous voyez, dans une autre chose, en devenant acteur et bienfaiteur de ce pays de manière extrêmement intéressante. Donc il est au-delà de la nationalité, au-delà du passeport. C'est là qu'il est.
Il avait toujours son dossier de police 74, j'ai plus lu le...
Il meurt en 73. Vous savez quoi, Stéphane? Vous savez quoi? Ce dossier de police a été dérobé par les nazis. Il a été transporté par une péniche. Puis après, sur un train, il est arrivé à Berlin. Puis les soviétiques l'ont piqué aux nazis en 1945 et il s'est retrouvé à Moscou. Ce dossier n'est revenu en France qu'en 2001. Et c'est à ce moment-là qu'on en a un peu parlé. Donc, on connaissait l'existence de ce dossier de police depuis, en fait, une quinzaine d'années, quand moi, j'ai commencé à y travailler. Mais personne n'avait été regardé de près comment il avait été constitué. Et c'est là que j'ai pu voir quand arrivent les indicateurs, pourquoi, etc. Vous voyez ? Donc, Picasso était surveillé comme les autres étrangers. Mais parce qu'il était exceptionnel et célèbre dans la presse comme artiste, les policiers entendait parler de lui. Il n'entendait pas parler de tous les autres qui étaient surveillés. Mais de lui, oui. Donc, chaque fois qu'il y avait un article dans la presse comme artiste exceptionnel, le dossier de police avait des notes supplémentaires. Alors là, on disait, c'est pas possible parce que ce type qui n'a pas fait la guerre, il est extrêmement riche, il a un château, il a des résidences. Et alors, Picasso est entouré d'individus extrêmement bienveillants, d'une certaine façon, et puis des individus malveillants, comme celui qui va faire le dossier de police en 1940 et dire cet individu n'a aucune...
Il suffit d'un individu malveillant,
c'est
finalement, par rapport à la masse de gens
ça.
Qui soutenaient
Derrière
Picasso.
Derrière tout officier de police, il y a un individu avec une trajectoire, avec des idées, vous voyez. Et celui-là était jaloux. Et il y avait beaucoup de jaloux. Jaloux de sa notoriété à l'étranger, de son argent, de son talent, de sa puissance,
Il avait
de son
un
pouvoir.
Moyen de l'humilier.
Mais évidemment, mais si vous voulez, le talent, ça donne du pouvoir. Il avait un pouvoir extraordinaire. Et vous savez, le pouvoir suprême de Picasso, ce que ça a été ? Ça a été que Guernica se trouvait donc au MoMA à New York, au Musée d'Art Moderne de New York. Et en 1968, Franco dit « il faut que Guernica rentre en Espagne ». Alors, l'avocat de Picasso, qui est Roland Dumas, dit à Picasso « il faut que Guernica rentre en Espagne ». Et Picasso dit « il n'est pas question, moi je suis anti-franquiste, Guernica ne rentrera pas en Espagne ». Roland Dumas lui répond mais vous ne pouvez pas, vous avez le droit contre vous. Cette œuvre vous a été commandée par le peuple espagnol en 1936, qui était à l'époque des Républicains. Ça leur appartient, ils vous ont payé, ça leur appartient, cette œuvre leur appartient. Maintenant, c'est le peuple espagnol qui vous le redemande. Ils sont monarchistes, mais c'est toujours le peuple espagnol. Il faut le rendre. Et Picasso a dit, j'en ai rien à foutre, démerdez-vous. Et Roland Dumas a dit, et je me suis démerdé. Il a tergiversé de telle manière que Guernica n'est jamais rentré en Espagne tant que Franco était vivant. Donc c'est extrêmement intéressant.
En tout cas, c'est quelle vie passionnante. Merci à Annie Cohen-Solal de nous avoir transporté vraiment dans la vie de Picasso. Je rappelle votre livre « Un étranger nommé Picasso » paru chez Fayard. Je rappelle également à nos auditeurs à Paris ou de passage dans la capitale, il faut monter rien que pour ça, qu'ils peuvent visiter l'exposition « Picasso, l'étranger » au Musée de l'histoire de l'immigration. Et c'est jusqu'au 13 février prochain. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qu'il faut voir pour les croire. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Clémentine, aujourd'hui, vous n'avez pas pu le voir de vos yeux vus. Mais vous avez tout lu à ce sujet. Vous nous racontez le coup d'État du 2 décembre 1851, il y a tout juste 170 ans, ça c'est des anniversaires que vous aimez célébrer, quand Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, de la Deuxième République, décide de garder le pouvoir.
Oh bah surtout quand c'est aussi merveilleusement raconté, là en l'occurrence par Nicolas Chaudin dans La Nuit des Aventuriers. Imaginez un soir de décembre, des hommes graves, en noir, visage fermé, dans un petit salon tendu de satin parme, brodé d'argent, et là ils attendent. Quoi qu'il arrive, dit l'un d'eux, nous aurons demain une sentinelle à notre porte. On ne sait pas très exactement pourquoi, soit pour leur faire honneur, soit parce qu'ils seront prisonniers. C'est dans ce petit salon de l'Élysée qu'est déclenchée l'opération Rubicon. Hein ? Alors pour ceux qui l'ignoreraient encore, le Rubicon c'est ce petit fleuve de l'Italie qu'aucun général romain n'avait l'autorisation de franchir avec des soldats en armes. Et ce petit fleuve devint célèbre quand César le traversa avec ses légions le 11 janvier 49 avant Jésus-Christ, violant ainsi la loi du Sénat. Et c'est là, selon Suétone, que César aurait prononcé la fameuse phrase.
Allez,
exactement. Ah, bravo, bravo. Ouais. Alors, l'opération Rubicon, donc il a franchi le Rubicon aussi. Vous connaissez bien Astérix.
Oui.
C'est donc un très bon nom pour un coup d'État, opération Rubicon. Et en l'occurrence, le Rubicon qu'il va s'agir de franchir ce jour-là depuis l'Élysée, c'est la Seine. Il faut circonvenir l'Assemblée nationale qui est hostile au prince président et l'empêche de gouverner. Alors qu'il a été élu avec 74% des voix. Donc il faut non seulement circonvenir l'Assemblée, abolir la République, proclamer l'Empire et devenir Napoléon III. Mais tout ça, c'est du boulot. Alors, ce coup d'État est raconté avec maestria par Nicolas Chaudin parce que c'est très bien fait, c'est très cinématographique. Vous savez, il est historien de l'art et donc il sait parfaitement dépeindre des lieux, une atmosphère et on s'y voit tous dans ce petit boudoir de l'Élysée où tout commence. On a l'impression de faire partie des conspirateurs. Alors, le premier d'entre eux, c'est Victor Fialin, vicomte de Persigny, l'homme liege du président. C'est lui qui doit superviser l'opération. Il a déjà été de tous les coups de force manqués, parce que vous le savez sans doute, le prince président, Louis-Napoléon Bonaparte, il s'est déjà planté une fois en 1836 à Strasbourg, puis à Boulogne en 1840, qui l'a emmené au fort de Ham où il a été emprisonné plusieurs années. Lui, Persigny, ses coups d'état manqués l'ont emmené à la citadelle de Doullens. Il n'y en est sorti qu'en 1848. Donc il a déjà fait pas mal de prison pour le compte de son champion. Et déjà, malgré tout, il est quand même visionnaire. Parce qu'en 1837, il écrit à un de ses amis « Tôt ou tard, nous mettrons nos pieds dans les traces du géant ». Le géant, évidemment, c'est Napoléon Ier. C'est lui qui va superviser la prise du palais Bourbon grâce à son bras armé, le colonel Espinasse, un bonapartiste exalté. Alors essayez d'imaginer ça, le 1er décembre aux aurores, les troupes du colonel Espinasse investissent l'Assemblée, ils encerclent l'hémicycle, on s'empare des questeurs, on s'empare du commandant de la place, on expédie tout ce petit monde à la prison de Mazas. Il est 6h30 du matin et il n'a pas fallu trois quarts d'heure pour prendre possession de l'Assemblée nationale. Ça
et
fait
les questeurs
peur.
Étaient déjà réveillés à 6h30.
Ils sont allés sans doute les secouer. Alors, il y a quelques députés qui sont évidemment tout émus, qui se précipitent à l'Assemblée. Ils s'égosillent, ils éruquent dans l'hémicycle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Forfaiture ? On les expulse à la force des baïonnettes. Hein. Ce fut par cette pantalonnade que prit fin la courte agonie de l'Assemblée nationale législative de la Deuxième République. Ça fait peur. Ensuite, alors, il faut procéder à quelques arrestations dans Paris. Ça, c'est le rôle de Charlemagne de Maupas, préfet de police. Il n'était pas préfet depuis 5 semaines, qu'il avait déjà épuré la police, muté les commissaires susceptibles de tiédeur. Il avait surtout épluché toutes les fiches de son prédécesseur pour savoir qui arrêter. On a constitué une cagnotte pour payer des indics. Il va convoquer dans son bureau 40 commissaires à la préfecture. Chacun doit arrêter 2 personnes. Mais ils sont tous reçus séparément. Comme ça, quand vous êtes commissaire, on vous dit, vous allez arrêter 2 personnes, vous dites « Bon oui, normal, mon boulot ». Vous vous doutez pas du tout qu'en fait, on est en train de faire un gigantesque coup de filet dans tout Paris. Donc le coup d'État, on le voit dans ce livre, au fil des pages, se déployer dans les règles de l'art. Arrestation, appel aux Français imprimé dans la nuit, en cachette et placardé dans tout Paris. L'Assemblée nationale est dissoute, le suffrage universel rétabli, l'état de siège est décrété dans tout le territoire. La veille, 1er décembre, 54 000 soldats sont entrés dans Paris, un soldat pour 20 habitants. Je dois essayer d'imaginer un truc pareil aujourd'hui. Il y a une fusillade sur les grands boulevards. On dit que dans tout le pays, ça a fait 1000 morts, le coup d'État du 2 décembre 51 de Napoléon III. Arrestation de près de 24 000 personnes en 6 semaines. Ça bouchonne dans toutes les prisons. Bon, alors très vite, on en relâchera près de 10 000, mais on en déporte aussi en Guyane, en en Algérie. Enfin, ça a été quand même quelque chose à la fois d'éclair et la République, pouf, c'est la baudruche. Hein. Donc, moins d'un an plus tard, après ce coup d'État, à la suite d'un autre plébiscite, eh ben, le Second Empire est établi. Louis-Napoléon Bonaparte devient Napoléon III, empereur des Français. Il y a eu le 6 février 34 où ça a échoué, mais il n'y en a pas tant que ça dans notre histoire de France, hein, des coups d'État. Ça vaut la peine de les regarder de près.
Ben, merci beaucoup, Clémentine, et donc, joyeux anniversaire.
On a senti que non, ça vous était vraiment très à cœur.
Non,
ce
vous
sujet.
Me connaissez, moi je préfère. Pour moi, le 2 décembre, c'est le sac de Napoléon Ier. Ah, oui. C'est, ah, pas, voilà. La, c'est oui. pas l'arrivée
donc,
au pouvoir.
Donc, joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
Ça marche à tous les coups. À tout de suite pour le quiz.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Et je me souviendrai toujours de la toute première question que je vous ai posée dans ce quiz. À qui doit-on la théorie de la relativité? Et que vous avez répondu...
Jackie Chan.
Ce jour-là, j'ai compris qu'on partait de très très loin. Jouons à Bern to Biel. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. On parle souvent de l'empereur romain Vespasien pour dire qu'il nous a donné les Vespasiennes.
Oui.
Mais on lui doit aussi le mot lycée. Vrai ou faux?
Ah, ça me dit quelque chose.
Est-ce qu'on lui devrait le
ouais,
mot?
Oui. Ça me dit quelque chose.
N'hésitez pas à prendre tout votre temps, Stéphane. Ouais.
Non, mais j'ai tout mon temps.
Est-ce à Vespasien?
Pécunia non olet.
Oui.
Ça, on connaît.
Ça, oui. Le baccalauréat, la baie de Laurier, oui, jusque-là. Mais le lycée...
Est-ce que le lycée...
Je ne saurais pas dire. Là, je
vient de l'empereur romain Vespasien. Vrai ou faux, Stéphane?
Allez, je vais dire vrai.
On lui doit pas mal de choses, ouais, Vespasien. Ouais, donc, après tout, pourquoi pas le lycée?
Pourquoi pas le lycée? C'est vrai, après tout. Après tout.
Vous avez...
Eh ben non, mais enfin, là, quand même, c'est pas possible. Même moi, je connaissais la réponse. Et à qui doit-on le lycée?
À Napoléon, mais...
Mais non, à Aristote, le lycée.
Ah,
Aristote,
oui,
oui. Il donnait ses enseignements. Alors ça, je ne savais pas précisément, ça s'appelait Lucéon, pas loin d'Athènes. Lucéon est aussi une montagne, ça signifie la montagne au loup. C'est pour ça qu'il dit le lycée, tout ceci.
Ah,
mais oui,
voilà,
enfin,
voilà, la montagne au loup,
oh, non,
bah
là,
oui,
choquée.
Mais c'est...
Là, je suis choqué, je suis déçu. Ouais. Question numéro 2, Clémentine.
Je suis dégoûté, là.
Toutes les guerres...
Je vais démissionner.
Toutes les guerres sont tragiques, mais certaines ont parfois des noms rigolos. Au XIIIe siècle, il y a eu la guerre de la vache. 15 000 morts quand même, ça fait beaucoup, même si c'était en Belgique. Vrai ou faux?
Oui, c'est vrai. Je connais
non, bah alors là, moi, je ne connais pas l'histoire, mais Stéphane a l'air très sûr de lui, donc je peux lui rétrocéder un demi-point pour que nous soyons à égalité, vu que... Voilà.
C'est tout à votre honneur.
Donc je réponds vrai.
Vous avez...
C'est tout à votre honneur.
Gagné.
Un demi-point partout. Vrai. Cette guerre...
Non, elle mérite son point.
Ah non, je ne connaissais pas du tout l'histoire,
mais
Stéphane.
Non, c'est une guerre entre... C'est pour une vache, il est allé dans les tribunaux, oui. Enfin, ça a été...
Ah, je ne connais pas du tout. Oui.
Entre la principauté de Liège et le marquisat de Namur.
Exactement.
Tout est parti d'un vol de vache. Cette guerre a fait 15 000 morts.
Incroyable.
Et oui, et c'est le roi Philippe III de France qui a mis fin au conflit, en tapant du poing sur la table. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Marcel Proust a décrit une ville dans un livre... J'aime bien cette phrase. Dans la recherche, quoi, il nous a parlé d'une ville très célèbre. Du coup, la ville a fini par prendre le nom de la ville qu'avait choisi Marcel Proust.
C'est le seul exemple dans l'histoire de la littérature. C'est la ville d'Illier qui est devenue Illier-Combray. C'est Combray dans la recherche et Illier est devenu Illier-Combray. Voilà.
C'est une petite ville, hein.
Oui. C'est magnifique, quand même, une réponse aussi précise.
Bon, il connaît ça par cœur, il habite juste à côté. C'est sa seconde maison, la maison de Proust à Illier-Combray.
C'est peut-être sa seconde maison, mais du coup, c'était trop facile pour Stéphane. Je vais
pimenter la question.
Renchérir. À quelle date Illier devient Illier-Combray?
1970.
Est-ce que j'aurais dit aussi? Moi, j'aurais dit 72.
71.
72 pour l'anniversaire de...
C'est bon. Je ne vous vole pas le point, car on est très près. C'est le 8 avril 1971, à l'occasion du 100e anniversaire de Marcel Proust. Le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, rebaptise la ville qui devient Illier-Combray.
C'est un cas unique dans notre histoire où le nom réel a pris le nom du nom fictionnel.
Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Octobre 1972, date importante pour moi dans ce quiz, puisque j'adore cette histoire. C'est le crash aérien du Fuerza Aérea dans la Cordillère des Andes. On connaît l'histoire, les rescapés n'ont pu survivre qu'en pratiquant le cannibalisme. Ce qu'on a oublié, c'est que les secours les ont repérés grâce à un feu qui n'aurait pas été possible sans les cadavres. Vrai ou faux ?
Non, je crois pas que ce soit vrai. Moi, je me souviens avoir vu le film au dossier de l'écran il y a des années. On voyait le pauvre gars là qui partait en essayant d'aller chercher des secours, mais je me souviens... Et puis, de toute façon, s'ils avaient voulu faire un feu, les cadavres, ça crame pas très bien. Ils auraient trouvé d'autres... Dans le reste de la carlingue, ils auraient pu faire brûler autre chose. Non, 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 c'est pas vrai, cette histoire-là.
Vous avez... gagné !
Vous avez gagné, on ne vous l'a fait pas. Ils pouvaient suivre les rescapés, l'avancée des recherches par la radio du cockpit de l'avion. Ça devait être très cruel, ils entendaient... Les... Oui. Et ils ont ainsi appris la fin des recherches. Oh, Fernando Parado avait le choix, soit manger sa sœur et sa mère, soit partir chercher des secours, ce qu'il a fait. Et après 8 jours de marche, il a perdu 30 kilos. Mais il a trouvé des secours.
30 kilos en 8 jours. Ah bah dis donc, ces fans, c'est bien à peine d'aller voir une diététicienne.
On va faire un trek cet été.
Oh, je suis écœuré.
Question numéro 5, elle va vous départager.
30 kilos en 8 jours.
Tenez-vous bien, c'est une question médecine. Première moitié du 19e, Robert Liston est écossais et néanmoins chirurgien. En 1846, il sera le premier à faire une amputation sous anesthésie. Avant d'être un champion du scalpel, il a connu une mésaventure médicale étonnante. Laquelle ? 3 propositions. Pendant une opération, il a tué 2 autres personnes en plus de celles qu'il opérait. Il a opéré de la main gauche pour prouver sa dextérité, mais ça s'est très mal passé. Ou il était connu pour donner à son chien ce qui normalement devait aller à la poubelle.
3.
Il a opéré de la main gauche pour prouver sa dextérité. Et vous me dites 3.
Il donnait à son chien.
Il donnait à son chien. Ouais. Eh bien, sachez-le, c'est une autre réponse.
Un.
Oh, Stéphane ! L'histoire de la médecine avec Stéphane, spécialiste. Oui, il a opéré un patient et pendant cette opération, il en a tué 2 autres. Alors, ça, c'est fortiche.
Mais comment il a fait ?
Alors, pendant l'opération, qui consistait à amputer une jambe, il a sectionné 2 doigts de son assistant qui est mort de la gangrène. Et l'homme amputé sur la table d'opération est mort aussi. Et des étudiants assistaient à cette démonstration. Robert Liston, en changeant de couteau trop rapidement, a coupé la veste de l'un d'entre eux. Ce dernier a cru être tailladé. Il est mort d'une crise cardiaque. 3 personnes
incroyable.
Pour une seule opération.
Ah non, mais c'est génial.
Robert Liston.
Mais il faut lui ériger une statue.
Il est quand même un pionnier de l'anesthésie.
Oui, il s'est rattrapé.
Ouais.
Tous ces gens ne sont pas morts pour rien. Belle victoire de Stéphane.
C'est beau.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se raconter. À la rencontre de 3 personnages ayant un point commun. Aujourd'hui, comme vous Mathieu, ils ont dit non au service militaire.
Oui Stéphane, enfin comme vous aussi, hein, je le rappelle. Sir, no sir, on réunit aujourd'hui des réfractaires au service militaire. Ce qui est étonnant quand on sait à quel point c'est sympa le service militaire.
À partir d'aujourd'hui, les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera chef, ta punaise. Est-ce que c'est bien clair ?
Chef, oui chef !
Mon cul, je n'entends rien. Montrez-moi que vous en avez une paire.
Chef, oui chef !
Michel Barnier a raison de vouloir le relancer. D'ailleurs, Michel Barnier a toujours raison. Mais ne faisons pas de politique. Présentons plutôt, Stéphane, nos 2 autres personnages du jour.
Oui, après Pablo Picasso, je vais vous parler d'Harold Pinter. Lui non plus n'aimait pas trop l'armée, alors faire son service militaire, très peu pour lui. Quant à vous Mathieu, vous nous parlerez d'un footballeur coréen qui a payé cher sa tentative d'échapper au service militaire.
Oui, alors il n'est pas décédé, car c'est un Coréen du Sud et pas du Nord, vous l'avez noté tout à l'heure, mais même au Sud, on ne plaisante pas avec le service militaire. Il a été privé de sélection en équipe nationale. Je vous brosse le portrait de Jang Yong-so, et ce sera l'occasion d'écouter un peu de K-pop, ça fait toujours plaisir.
Sans oublier nos célèbres chroniqueurs. David Casselopez, qui remonte aux origines d'un best-seller des parfums,
oui.
Le Chanel numéro 5.
Exactement, le Chanel, le parfum le plus célèbre du monde. Raconterait cette histoire un petit peu trouble du parfum Chanel numéro 5.
Surtout longtemps, quand j'étais petit, je demandais toujours à maman pourquoi il n'y avait pas le Chanel numéro 1, le numéro 2, le numéro 3.
Surtout qu'il y avait le numéro 19 aussi.
Oui, hein, mais pourquoi c'est très confondant. Et entre le 5 et le 19, ils n'ont pas compté. Enfin, je ne sais pas. C'est étrange. Olivier Poul, c'est avec nous aussi.
Oui, alors il a un dessert à nous proposer, une chose qui a l'air savoureuse.
Oui, le Diplomate, qui est un beau dessert à base de fruits secs, à base de rhum, à base de brioche, le tout enrobé de crème anglaise. C'est délicieux, puis surtout, c'est une vraie histoire intéressante.
Puis évidemment, vous nous l'avez amené pour qu'on puisse le
déguster.
Le temps
de finir de le cuire.
Évidemment, évidemment. Dans le célèbre four d'Europe 1, qui est juste à côté. Évidemment. Alors là, Stéphane, on sent parfois quand Stéphane part sur quelque chose d'impossible. Oui. Il me regarde, en ce moment-là, il commence.
C'est amusé, les fours. Et puis...
oui, très bonne blague. Faire un four, oui, très bien. Enfin, aux alentours de 6h20, pour clore cette émission, l'odeur du Chanel numéro 5 cédera sa place à l'odeur du sang. Celui versé par les gladiateurs de ce jeu sadique qu'on appelle très justement la lutte finale. Mais pour l'heure, partons à la rencontre de notre deuxième personnage du jour.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il a laissé son nom au plus célèbre cirque du monde. Pinder.
Pinter, Mathieu. Harold Pinter.
Ah oui. À une lettre près, j'avais bon. Lui, il a choisi la comédie, puis l'écriture, et bien lui en a pris. Considéré désormais comme l'un des plus grands dramaturges du XXe siècle, un écrivain engagé qui s'est dégagé de ses obligations militaires, Stéphane Bern nous raconte Harold Pinter avec un T.
Nous sommes en octobre 1948 à Hackney, un quartier populaire de l'Est londonien. Lorsqu'arrive au domicile de la famille Pinter, une lettre dont l'expéditeur, mentionné sur l'enveloppe, n'est pas du goût de Harold, le fils de la maison. Le courrier émane en effet de l'armée britannique. Il annonce qu'Harold, qui vient tout juste d'avoir 18 ans, qui est beau comme un enfant, fort comme un homme, est appelé sous les drapeaux pour faire service militaire. Harold Pinter ne prend même pas une seconde de réflexion et s'empresse de répondre à l'administration pour manifester son opposition. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et au tout début de la guerre froide, dans une ambiance où la fibre patriotique ne cesse d'être vantée et sollicitée, la position d'objecteur de conscience qu'adopte le jeune Pinter est quelque peu iconoclaste. Mais il est hors de question qu'il participe à une quelconque entreprise militaire. L'idée d'un réarmement de l'Europe lui paraît ridicule. Harold Pinter est trop conscient des souffrances et des horreurs de la guerre. Il se rappelle les bombardements sur Londres en 1940. Il n'oubliera jamais le bruit, la fureur. Il n'oubliera pas qu'il a dû, comme beaucoup, se terrer dans des caves, puis fuir la ville avec sa famille d'origine israélite. Alors non, jamais il ne tombera dans l'enthousiasme guerrier d'une époque qui semble vouloir courir à sa propre perte. Évidemment, les choses ne sont pas si simples et son refus, il le sait, va entraîner une convocation devant le tribunal militaire, ce qui ne manque pas de se produire quelques semaines plus tard. Pinter est conscient qu'il risque la prison et part donc à son procès en prenant soin d'emmener sa brosse à dents. Par chance, le magistrat officier est clément et Pinter s'en sort avec une simple amende de 30 livres, une coquette somme pour l'époque tout de même. Le prix donc de ce qu'il considère comme son premier acte politique, et qui ne sera pas le dernier. De retour chez lui, Harold Pinter trouve des petits boulots pour payer l'amende et surtout s'occupe à ce qu'il aime le plus, le théâtre et la littérature. Il s'est très jeune passionné pour de nombreux textes et auteurs. Il a joué Macbeth au lycée et a d'ailleurs, avant son appel sous les drapeaux, intégré une école de théâtre qu'il a fini par quitter, plus par indisposition face au cadre scolaire que par désintérêt. Mais il continue à lire, à écrire des poèmes et même jouer la comédie avec des amis. En 1951, Pinter s'inscrit dans une autre école d'art dramatique et se lance dans une carrière de comédien en tournée dans tout le pays. En 1957, Harold Pinter a 27 ans. Il écrit sa première pièce, La Chambre, mais c'est son troisième opus, Le Gardien, qui lance véritablement sa carrière de dramaturge. Dans les années 60, il développe son style, inspiré de Ionesco ou de Beckett pour l'aspect absurde et inspiré de son milieu défavorisé pour le parler populaire qu'il n'hésite pas à utiliser. Il est associé par la critique au mouvement dit des « jeunes hommes en colère » qui font parler les personnages comme dans la vie plutôt que comme dans les livres, loin de la grandiloquence bourgeoise du théâtre à la papa. Au fil de ses créations, des thèmes de prédilection émergent. La domination des uns sur les autres, l'hypocrisie du couple autant que de la société, l'artificialité des valeurs qu'il prend un malin plaisir à renverser et toujours l'incertitude de la vérité ou la difficulté de la communication. Tout cela s'incarne dans un théâtre parfois inquiétant, dans lequel les personnages brouillent les pistes d'une intrigue qui ne se déploie jamais vraiment, mais où petit à petit se dessinent des rapports d'oppression où les masques tombent pour laisser apparaître la violence. C'est dans l'apparente simplicité des dialogues, et encore plus dans les silences, que se créent les tensions. « Nous ne communiquons que trop bien par notre silence, » dit Pinter, « parce que nous ne disons pas. » Son style singulier donnera même un adjectif « pinteresque » officiellement intégré au dictionnaire. À partir des années 70 et plus encore 80, tout devient chez Harold Pinter de plus en plus politique. L'actualité internationale y est pour quelque chose, il faut bien avouer. de Cuba au Chili, du Nicaragua à l'Afrique du Sud, de Ronald Reagan à Margaret Thatcher, partout l'injustice et la brutalité du pouvoir nourrissent sa pensée et sa révolte. En tant qu'écrivain, Harold Pinter dit vouloir fracasser le miroir, car c'est de l'autre côté que la vérité nous fixe des yeux. En tant qu'homme, il ne manque jamais de s'insurger. Comme en ce mois de mars 1985, alors qu'il visite la Turquie avec l'écrivain américain Arthur Miller, passionné par le Pan American Center, une ONG qui lie la littérature à la défense des droits de l'homme. Dans le pays, qui est alors une dictature militaire, il rencontre des écrivains dissidents qui racontent les persécutions, les emprisonnements et la torture. Le voyage se termine par une réception très officielle au sein de l'ambassade américaine d'Ankara. À peine a-t-il entamé les hors-d'œuvre que Harold Pinter engage la conversation au sujet de la torture dans les prisons du dictatorial régime, alors soutenu par les États-Unis. Ses interventions tranchent au milieu des mondanités, mais Pinter ne se tait pas et continue de demander aux invités et diplomates comment une démocratie peut soutenir un régime si répressif. Alors qu'il admire quelques peintures après le repas, l'ambassadeur l'interpelle et le prie de comprendre la situation. Les Russes ne sont pas loin, il y a des réalités militaires à considérer. La réponse de Pinter est sans appel, avec toute l'impudence qui deviendra légendaire. La réalité qui m'intéresse est celle du courant électrique sur les parties génitales. L'ambassadeur s'offusque et le prie de quitter les lieux. Arthur Miller se joint à lui par solidarité. Pinter dira plus tard qu'être expulsé de l'ambassade américaine d'Ankara fut l'une des plus grandes fiertés de sa vie. Pinter pense et agit ainsi face à ce qui le scandalise. Et lorsqu'en 2005, il reçoit le prestigieux prix Nobel de littérature, son discours porte essentiellement sur les États-Unis et leur impérialisme meurtrier, autant que sur la veulerie du Premier ministre britannique alors en poste, plutôt que sur la littérature. Harold Pinter annonce peu après que 29 pièces, 22 scénarios, un roman et des dizaines de poèmes sont bien assez. Il en a fini avec l'art et ne veut plus désormais agir que par la politique dans un monde dont il dit lui-même qu'il agonise. Mais il n'en aura malheureusement pas beaucoup de temps. Lui aussi est en train de mourir, un cancer le ronge. Sa disparition en 2008 met un terme à l'effronterie et la virulence de ses combats politiques, mais le fait en revanche entrer au panthéon des plus grands auteurs du XXe siècle et ses œuvres, jouées sur toutes les scènes du monde, continuent de bousculer les consciences.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Harold Pinter, nous sommes avec une historienne qui connaît Pinter presque par cœur. Bonjour Brigitte Gauthier.
Bonjour.
Bonjour Brigitte Gauthier, vous êtes historienne du théâtre et du cinéma et auteure de Harold Pinter, le maître de la fragmentation chez l'Harmattan et maître en scène Harold Pinter, paru aux éditions Entretemps. Je racontais dans mon récit qu'Harold Pinter avait refusé de faire son service militaire. À son époque, on est au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que beaucoup d'autres jeunes gens étaient, comme lui, réfractaires à tout service militaire, parmi les artistes notamment ?
C'est connu aux États-Unis avec le film Hair, qui a été mis en scène par Miloš Forman. Enfin, c'était à l'origine une comédie musicale, cette grande vague d'antimilitarisme. Mais si on prend le cas de Pinter, j'ai envie de dire qu'on ne fait pas le service militaire parce que quand vos ancêtres sont morts en camp de concentration, on ne croit plus à Dieu et on ne croit plus à la guerre.
Stéphane racontait qu'Harold Pinter avait quitté la première école de théâtre qu'il avait rejoint car il supportait mal le cadre scolaire. C'est quelqu'un qui a, de manière générale, il a toujours eu du mal avec les cadres, avec l'autorité, dans tous les domaines.
Alors ça se ressent dans son œuvre et on s'aperçoit que ce qui lui importe le plus, c'est qu'on ne puisse pas le mettre en cage. Il refuse d'être zoïfié par les critiques et il s'est toujours insurgé contre toute petite étiquette qui tenterait d'explorer son œuvre. Quand on voit une pièce de Pinter, on la voit à différents âges et elle nous parle différemment. C'est peut-être la preuve.
Oui, mais sans qu'on sache trop dire pourquoi. Enfin, je ne sais pas si c'est peut-être très personnel, mais moi, quand je vois Pinter, je sens que c'est quelque chose de génial. J'apprécie, mais je ne saurais pas trop expliquer pourquoi. Ce n'est pas tellement les dialogues, c'est vrai que c'est les silences aussi. Enfin, c'est beaucoup de choses. Qu'est-ce qui fait la singularité pour vous de cet auteur ?
On n'a pas besoin de savoir pourquoi. Quand on vit une expérience théâtrale, une immersion dans une salle de spectacle, on a envie de sortir de la pièce avec un souvenir, de la même façon que quand on voit un film, on sort avec une image. Avec Pinter, on sort avec un choc électrique. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose dans votre corps, dans votre état, qui vous a sorti d'une certaine torpeur. C'est ça, sa spécificité.
Je le disais tout à l'heure dans mon récit, pour situer un peu le théâtre d'Harold Pinter, on parle beaucoup de Beckett, de Ionesco, pour le côté absurde. Et puis, il y a un côté classique aussi chez lui. Est-ce qu'il propose un style d'écriture, une nouvelle forme de théâtre, une mise en scène révolutionnaire? Quelle place il occupe à ce moment-là, quand ses pièces paraissent, dans le théâtre anglais?
Alors, parler de Pinter en parlant de l'absurde, c'est tout à fait juste, mais c'est un petit peu utiliser des baguettes chinoises pour l'attraper, comme on peut. Et il est nouveau. C'est Barbara Bray qui a découvert Pinter et Beckett. C'est une femme qui était un manager à la BBC. Et c'est un homme qui a surgi par la radio. Donc, c'est quelque chose qui doit pouvoir expliquer aussi son positionnement. C'est le son, c'est la voix. Quand on vous prive de toute autre possibilité de dramaturgie, il y a cette force. Et l'absurde, il est réel, il est concret chez Pinter, mais ce n'est pas le même que chez Ionesco. C'est-à-dire, chez Ionesco, il vous emmène vers le rire, vers la joie. Chez Pinter, il vous scie la tête, il vous charcute, en fait. Il y a une violence dans son absurde à lui.
Stéphane racontait que le théâtre de Pinter, il était associé par les critiques, en tout cas au mouvement des jeunes hommes en colère qui voulaient faire parler les personnages de théâtre comme dans la vraie vie, plus du tout comme dans le théâtre d'avant. C'est qui les autres grands dramaturges de ce mouvement-là?
Vous avez des hommes de littérature, il y a quelques romanciers. Et puis dans les dramaturges, il y a la pièce « Look Back in Anger » de John Osborne, et puis il y a Arnold Wesker qui a écrit ce qu'on a nommé le kitchen sink drama, c'est-à-dire le théâtre qui se passe dans votre cuisine. Et donc ça explique tout de suite ce qui se passe pour le personnage de Jimmy Porter dans Look Back in Anger. L'outil principal, c'est une table à repasser, et une femme d'une société haute bourgeoise repasse parce qu'elle a épousé quelqu'un de la classe ouvrière. Et cette parole de la classe ouvrière, c'est ça qui est nouveau, c'est ça qui est partagé par tous ces jeunes, et c'est ce post-guerre qui permet à une nouvelle culture de surgir.
Je parlais un petit peu des thèmes des pièces de Pinter. Il y a la domination des uns contre les autres, l'hypocrisie dans un couple ou dans la société, l'artificialité des valeurs. Au fond, est-ce qu'il pensait que ces pièces avaient une portée politique? Est-ce qu'il voulait faire prendre conscience des choses à la société britannique avec son théâtre?
Les critiques l'ont découvert politique dans les années 80, mais Pinter se veut politique du premier jour au dernier jour. Il revendique son acte militant. Et je pense que s'il n'a pas été peut-être justement perçu aussi politisé au début, c'est parce que encore une fois, étant donné ses origines, il a choisi non pas de se créer comme auteur juif, pour ne pas avoir cette catégorie, mais comme auteur universel. Il a gommé. Il a gommé les lieux, il a érodé toute la géolocalisation des aspects. Il a rendu un discours anti-domination dans un lieu non géolocalisé. Et c'est ce qui a fait que souvent les gens ont parlé plutôt d'existentialisme, mais le politique, c'est le cœur de la guerre, le cœur du nerf chez Pinter.
Peut-être que vous pouvez nous expliquer le titre de votre livre, Harold Pinter, le maître de la fragmentation. Vous écrivez que chez Pinter, on assiste à une fragmentation des mots, des êtres et des relations. Qu'est-ce que ça signifie exactement?
J'avais cherché à donner une image qui représentait l'ensemble de Pinter. Et Pinter, il écrit comme quelqu'un qui crée un puzzle. Et quand on regarde l'ensemble de son œuvre, on s'aperçoit que la dernière œuvre reprend en fait finalement toutes les œuvres. Et la fragmentation, c'est le fait qu'il écrit à une période qui est une période qu'on pourrait nommer schizophrénique, c'est-à-dire les années 60, c'est des années où la mise en scène de la folie sur scène est une façon de traiter de l'enfermement. C'est l'époque foucauldienne, c'est l'époque de ce décalage. Et la fragmentation, il nous fait sentir cet éclatement dans une parole qui est délitée, une parole qui est distendue, mais aussi dans des relations humaines qui sont en constante permutation et en constante, déchiquetage. C'est-à-dire, vous êtes dans une relation domestique qui a l'air de fonctionner, mais cette relation est en fait l'image inversée de votre relation adultère. Et à la fin, vous apercevez que la relation adultère est en fait la relation réelle. Et c'est un simple changement de chaussure. Est-ce que vous portez des talons hauts ou des talons bas qui fait que vous êtes la pute ou la femme? Et c'est autour du mot, c'est pour ça qu'on atteint la fragmentation, c'est le simple mot qui devient une arme.
Merci beaucoup Brigitte Gauthier. Je rappelle vos livres, Harold Pinter, le maître de la fragmentation, disponible chez l'Harmattan, et Mettre en scène Harold Pinter, qui est sorti aux éditions Entretemps. Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces hommes qui ont refusé d'effectuer leur service militaire. Après Pablo Picasso et Harold Pinter, eh bien vous nous brossez, Mathieu, le portrait maintenant en 99% vrai d'un récalcitrant contemporain au service militaire.
Ben oui Stéphane,
vous.
Oh les mains.
En tuant par inadvertance le 29 juin 81, l'adjudant instructeur qui vous avait tendu un FAMAS pour inspection, vous avez sans le savoir scellé votre avenir dans l'armée. Vous étiez réformé. Bravo Stéphane. Et bien sûr, sans tuer personne, je plaisante, vous avez juste joué les fous, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Mm. Sauf que vous, vous aviez vraiment mis le paquet en arrivant torse nu avec pour tout vêtement un slip léopard en criant... Comme vous, ça avait bien marché, comme vous, notre troisième personnage a tenté d'échapper au service militaire. Le problème, c'est que dans son pays, on ne plaisante pas avec le service militaire. Vous avez vu Squid Games ? Alors, vous savez à quel point en Corée du Sud, les militaires peuvent être tendus. L'indiscipline les met en rogne. Vous êtes prêt pour un petit voyage en Corée du Sud,
ah
David ?
Oui. Hop, casque de samouraï.
Parfait, je vois que monsieur a déjà une belle connaissance de la péninsule coréenne. Comme je vous le rappelle à chaque fois, la Corée se divise en deux. Au nord, mon ami d'enfance, Bul Koko, jovial dictateur qui consacre 90% du PIB de son pays à construire de gros missiles dont il ne se servira jamais, pendant que les gens crèvent de faim. Au sud, un régime démocratique où les gens se goinfrent de bibimbap et écoutent de la K-pop. Deux visions de l'enfer pour vous, Stéphane, mais globalement, les gens estiment qu'il faut quand même mieux vivre au sud. Parmi ces Coréens chanceux, mon personnage du jour, vous connaissez évidemment David Jang Yoon-so.
J'ai fait la queue avec lui un jour à la pharmacie de garde de la place de Clichy.
Voilà, lui-même, c'est un joueur de foot.
C'est fou, le monde qui passe à cette pharmacie.
Mais c'est la salle qui est ouverte 24h sur 24, hein, c'est oui, pour ça, on croit ce
qu'on a une, la place Pigalle.
C'est lui, ah, ça, c'est juste. C'est un joueur de foot très célèbre en Corée du Sud. Jang est né en 1991. Il est un solide défenseur, qualifié parfois de rugueux par le quotidien L'Équipe. Hélas, s'il est très doué avec ses pieds, il l'est un peu moins, comme nous allons le voir, avec son cerveau. En 2018, notre grand dadais tente d'échapper au service militaire en pipotant, en se disant certainement « bon, au pire, qu'est-ce que je risque ?» Eh bien, tu risques tout simplement d'être banni à vie de l'équipe nationale, ce qui sera chose faite quelques mois après la révélation de l'affaire Jang. Le joueur sera banni pour, je cite, « avoir sali la dignité de l'équipe nationale ». La vache, là, on se dit, mon Dieu, il a dû faire un truc horrible, hein, il a dû, pour écoper d'une telle sanction. Quand on sait que chez nous, Benzema vient d'être condamné pour chantage à l'ex-estep et que la Fédé a annoncé tranquillement que ça n'impacterait ni sa carrière ni sa présence en équipe de France, on se dit que le Jang, il a dû faire un truc énorme. Ben non, juste, il a falsifié des documents officiels attestant de l'exécution de 200 heures de travaux d'intérêt général. Pas la moindre vidéo cochonne, pas la moindre prostituée bulgare mineure, pas le moindre accessoire en latex. Le malheureux Jang Yoon-so a été viré à vie de son équipe nationale simplement pour avoir menti sur l'exécution de travaux d'intérêt général. Alors imaginez le sort qui serait réservé aux Balkany dans ce pays, j'en frissonne. Là-bas, visiblement, on ne déconne pas avec la loi, et la loi, c'est pas très compliqué. Tu es un homme, tu as entre 18 et 28 ans, tu dois effectuer 21 mois de service militaire. Pas la peine de se pointer à l'examen médical avec un étui pénien bambala en criant... On ne la leur fait pas aux médecins coréens. De très rares exemptions sont possibles, seulement en cas de médaille olympique et de médaille d'or aux Jeux asiatiques. Justement, Jang avait décroché l'or en 2014, sauf que souci, il lui était tout de même demandé d'effectuer une formation militaire et un service d'intérêt général, donc lié au sport, de 544 heures. C'est là que, comme n'importe qui cherchant à louer un appartement à Paris, Jang s'est résolu à monter un faux dossier. Sauf que Jang est un peu con. Il remplit un document certifiant qu'il a accompli 200 heures de travaux d'intérêt général en décembre 2017, consistant en des cours de football en extérieur. Sauf qu'en décembre, en extérieur, en Corée du Sud, que se passe-t-il ?
Il fait froid.
Oui, voire même, il neige.
Oui.
Et oui, Jang a donc menti. On ne peut pas apprendre à des gosses à jouer au foot en moon boots. La sanction tombe très vite, exclusion à vie de l'équipe nationale et 23 000 euros d'amende. La Fédé explique, le but est de souligner que tous ceux qui provoquent la polémique ne peuvent pas jouer dans l'équipe nationale et éviter des cas similaires dans le futur. Jang Yoon-so demande publiquement pardon, une autoflagellation qui ne changera en rien le cruel verdict. C'est con, il aurait dû choisir le chantage à l'ex-estep, visiblement ça passe beaucoup mieux. En tout cas, retenez bien cette leçon Stéphane, on ne gagne jamais à mentir. Surtout quand on ne sait pas mentir. Est-ce que vous avez déjà fait du stop pour rentrer chez vous dans votre vie ?
Oui, ça m'est arrivé. Non, mais ça m'est vraiment arrivé.
Oh, mais Stéphane, comme personne ne vous a cru. Vous allez finir, vous êtes sanctionné, vous ne pourrez plus jamais porter le maillot bleu de l'équipe de France. Attention, hein, si jamais.
Mais
vous...
j'ai jamais porté et personne ne me l'a proposé.
Tout peut arriver très vite, vous ne savez pas.
Europe 1, historiquement vôtre.
Allez, il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour.
C'est planqué, on peut le dire, Stéphane. Hein, ces poltrons qui, sous couvert d'antimilitarisme, ont surtout échappé aux corvées de patates. Et on retrouve deux gaillards qui, eux, ont servi sous les drapeaux belges et portugais.
Oui. Enfin, d'ailleurs, c'est comme puisque ça, vous parlez de pays internationaux, on va parler du diplomate. Le diplomate est celui qui voyage avec de la culture gastronomique.
Ouais, mais c'est aussi celui qui se mange et parfois les deux se confondent. Vous allez voir.
Comment ça, les deux se confondent ?
Je vous sers un diplomate. Le diplomate, mais un diplomate peut inspirer ou la diplomatie peut inspirer un dessert.
Il y a des friandises qui s'appellent le mendiant.
Oui.
Pas manger le mauvais.
J'attendais le dérapage, il n'est pas venu.
Il n'y a pas de dérapage.
Non, mais avec vous, je...
Et puis tout de suite, on va retrouver celui qui remonte aux origines des choses qui font notre quotidien, c'est David Castillo-Lopez.
Et aujourd'hui, avec l'histoire du parfum le plus célèbre au monde, le Chanel numéro 5.
Oui. Moi, d'une façon générale, je dois dire, j'aime pas les parfums. Au mieux, je le tolère, mais je l'aime pas. Ni sur les messieurs, ni surtout sur les dames. Ce qui est plus embêtant vu mon degré élevé d'hétérosexualité. Il m'est arrivé d'avoir des enthousiasmes assez intenses pour des filles et de voir ces enthousiasmes s'émousser à des moments qui n'étaient pas très appropriés uniquement parce que le parfum de la fille était trop fort. Je pense vraiment que si j'avais une reine de beauté internationale devant moi, un peu trop de parfum et paf, elle perdrait 3 niveaux de noblesse pour devenir une simple petite comtesse du sud de la Loire.
C'est important que vous communiquiez là-dessus, parce que là, jusqu'à présent, les femmes pensaient juste que vous étiez impuissant. Donc là, c'est bien cette explication.
Elle a perdu ses moyens.
C'était le parfum.
C'est votre faute.
Alors, vous allez me dire, oui, mais un parfum peut camoufler une odeur naturelle désagréable. Et du coup, c'est mieux que rien. Oui, mais non. Parce que comme le sang d'une plaie qui finit par tacher le pansement qu'on a mis dessus, les odeurs de la nature finissent toujours par percer les artifices dont on veut les couvrir. Après, je suis bien obligé de voir que je ne suis pas très typique de ce point de vue-là, parce que d'après les chiffres que j'ai pu trouver, il se vend chaque année dans le monde pour 30 milliards d'euros de parfums. Et une bonne partie de cet argent, ce sont les recettes du parfum le plus célèbre du monde, le Chanel numéro 5. Mais alors, d'où ça vient, le Chanel numéro 5 ? Bon, ça vient de Coco Chanel, hein, évidemment, ça tout le monde le sait. Coco Chanel, en 1920, elle avait déjà une petite boutique à Paris. Et elle sortait à ce moment-là avec un noble russe en exil qui s'appelait Dimitri Pavlovitch. Et Dimitri, dès qu'on parle d'un noble,
on se tourne immédiatement à la réponse. Il n'y a pas de noble que vous ne connaissez pas, Stéphane.
C'est pas ça, Coco Chanel, elle a couché toujours qu'avec des gens qui pouvaient lui servir.
Donc, d'abord,
le grand-duc Dimitri Pavlovitch.
Tout à fait.
Et ensuite, elle était avec le duc de Westminster.
Tout à fait. Et ce qu'il a fait, Dimitri Pavlovitch, c'est qu'il lui a présenté un autre ami russe en exil à lui qui s'appelait Beau. Et qui aimait bien inventer des parfums. Alors Coco Chanel, elle lui a dit « Vas-y, s'il te plaît, invente un parfum pour moi, s'il te plaît. » Et là, la légende, qui est peut-être...
Elle était comme ça, Coco, elle était curieuse, fais-moi un parfum.
Et là, la légende, qui est peut-être vraie, mais c'est dur à prouver, c'est que Beau, il a présenté 10 échantillons à Coco Chanel pour qu'elle choisisse. Et Coco Chanel, elle a choisi l'échantillon numéro 5, d'où le nom. Alors, qu'est-ce qu'il a d'original, le Chanel numéro 5 ? Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a d'original, mais à l'époque, il était visiblement assez révolutionnaire, parce que Beau, il a mis dedans une grande quantité de ce qu'on appelle des aldéhydes de synthèse. Et ce sont ces aldéhydes qui donnent au parfum une sorte de pétillance sympa, et qui à l'époque était assez inédite. Coco, elle a sorti son parfum en 1921, donc il y a 100 ans exactement cette année, et en 1924, elle s'est associée à Pierre et Paul Wertheimer, deux frères d'origine juive qui dirigeaient Bourjois, l'une des entreprises cosmétiques les plus célèbres à l'époque. Elle a fait un deal avec eux. Ce deal, c'était 90% des recettes pour eux, 10% pour elle.
Bien joué.
Peut-être, sans doute d'ailleurs, parce que Coco Chanel n'avait pas prévu à quel point le Chanel numéro 5 serait un succès planétaire. Mais quand ça a été le cas, elle a essayé d'attaquer en justice les frères Wertheimer pour obtenir plus de 10%. Elle a même fait bien, bien pire que ça. En fait, Coco, elle a fait même quelque chose qu'on pourrait qualifier de odieux. Elle a essayé d'utiliser, pendant la guerre, les lois anti-juives qui ont été mises en place en France pendant l'occupation pour prendre le contrôle de la totalité du Chanel numéro 5. Ouais, voilà. Sauf qu'elle n'a pas réussi parce que les frères Wertheimer, ils s'étaient réfugiés à New York et ils avaient confié leur part dans Chanel à un monsieur chrétien qui a accepté de leur rendre après la guerre. Alors moi, j'avais aucune idée de ce que ça sentait, le Chanel numéro 5. Et comme j'aime pas écrire sur les choses que je ne connais pas, eh bien hier, je suis allé dans une parfumerie. Et pour vous dire à quel point je prends mon métier à cœur, j'étais prêt à acheter un flacon de Chanel numéro 5 à 85 euros, parce qu'il n'y en a pas des moins chers que ça, pour pouvoir en dire deux mots. Mais là, j'ai vu qu'il y avait des échantillons. Alors j'ai demandé à la dame de la parfumerie si je pouvais en prendre un. Elle m'a dit oui. Mais du coup, je me suis senti mal et donc j'ai quand même acheté un gel douche Dior à 45 balles. Un peu comme vous, moi, Mathieu, ouais, quand vous êtes entré un jour dans une librairie par erreur et que vous avez acheté un livre dont vous n'aviez pas besoin pour ne pas faire de la peine au libraire.
C'était une bible pour enfants.
Voilà. Alors, du Chanel numéro 5, j'en ai ici. Hop. Je vous en donne aussi.
Il faut secouer comme ça, je sais, j'ai vu les
exactement. Je vous en mets ici comme
ça. C'est quand même un parfum très équilibré, c'est quand même un bon parfum.
Oui,
pas alors, à dire. Très classique maintenant, mais.
Alors, pas moi, très jeune.
Moi, ce que j'ai trouvé, le seul truc que je peux dire, c'est qu'il y a une sensation très réelle de froid.
De frais.
Qui vous vient dans le
frais.
Vous voyez, ça
c'est
fait
vrai
vraiment comme une sorte de petite brise.
Studio, oui.
Ouais, ça fait comme une petite brise dans le visage, vous voyez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Chanel numéro 5. Oh, heureusement, je n'ai pas dépensé 85 euros.
les pubs Chanel numéro 5, c'est-à-dire les plus grands. D'abord, ça a commencé avec Marilyn Monroe qui a dit je dors nu avec
juste une goutte de Chanel numéro 5.
Mais ça sent bon.
Ça sent très bon.
C'est vrai que c'est pas mal.
Et c'est en fait, depuis 100 ans, c'est d'entrer dans notre mémoire olfactive.
Mmh. Ouais.
Et donc, en fait,
toutes ces femmes qu'on a connues, prises dans nos bras,
exactement.
Forcément.
Nos mères, nos grand-mères. Voilà. Merci, David. On retrouve Les Origines en podcast et sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et Europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
Olivier Pouls, tous les jours, vous nous donnez l'histoire d'une recette, d'un plat qu'on adore. Aujourd'hui, vous nous parlez, Olivier, du diplomate.
Oui, vous savez que l'histoire de la cuisine et de la pâtisserie peuvent être étrangement liées à l'histoire de la diplomatie. Et dans ce cas précis, c'est exactement
c'est
ça.
C'est ça.
Eh oui, c'est exactement ça.
Bravo.
Puisque nous sommes en 1815 au congrès de Vienne. Vous savez que la France la joue plutôt profil bas. Napoléon a pris
on
a une sacrée
dérouillée nous quand même.
On a pris une sacrée dérouillée à Waterloo et les grandes puissances sont réunies pour redessiner ce qui devait être les contours de la future Europe et donc sceller notre destin. Alors nous sommes représentés sur place, vous l'avez dit, par Talleyrand, un surnommé le diable boiteux, un très habile négociateur, qui a dans ses bagages ce qu'il considère être comme sa meilleure arme en dehors de son talent personnel, son cuisinier. Un certain Antonin Carême. Et d'ailleurs, que dit Talleyrand à propos de la cuisine ? On ne fait pas de bonne diplomatie sans un bon déjeuner. Et il va tout au long du congrès de Vienne qui va durer plusieurs mois.
La diplomatie de la table.
Faire de la diplomatie de la table. Et évidemment, Antonin Carême, qui à l'époque a une trentaine d'années, il est déjà réputé comme un très grand chef. Il fascine absolument toutes les délégations du monde entier, enfin du monde entier, de l'Europe en tout cas, de ceux qui sont là, qui se battent pour venir assister aux repas qu'il propose, des repas énormes. On y mange jusqu'à 48 plats d'affilée, ça dure des heures. Et on considère d'ailleurs que le rôle de Carême était assez déterminant dans ce qui est sorti au final du congrès de Vienne, dont on n'a pas été finalement si maltraité que ça aurait pu l'être. Et donc, lors de ce congrès de Vienne, Talleyrand mandate son cuisinier et lui demande de créer un dessert particulier qui puisse se manger un peu à toute heure du jour et de la nuit, parce qu'il a constaté que y avait des négociations qui avaient lieu très tardivement, parfois tôt le matin, et que c'était très compliqué de faire des plats, notamment des plats chauds qui devaient servir. Donc, il lui demande d'inventer un plat. Et c'est là que probablement, c'est ce qu'en tout cas il revendique, que Antonin Carême invente cette pâtisserie. Alors, une pâtisserie qui est composée de brioches, de fruits secs, de rhum et de crème anglaise. Je vais vous donner la recette dans un instant. Et qu'il fait donc servir durant le congrès de Vienne. Et son nom, diplomate, eh bien, vient du fait que ce plat joue un rôle dans la diplomatie et notamment durant ce congrès de Vienne en 1815. Alors pour ce qui est de la recette, pas très compliqué. 300 grammes de fruits secs, un mélange, une petite cerise, des raisins, des abricots, tout ce que vous voulez. 10 centilitres de rhum. Une dizaine de tranches de brioche rassis, c'est mieux. Pas qu'elle soit trop fraîche, parce que comme on va l'imbiber, il vaut mieux qu'elle ait un petit peu séché. 5 œufs, 25 centilitres de lait, 150 grammes de sucre et un sachet de sucre vanillé. On va d'abord faire tremper les fruits secs dans le rhum, ce qui va les imbiber un petit peu. Ensuite, on va faire griller les tranches de brioche. On va faire un appareil avec les œufs dans lequel on va ajouter le sucre vanillé et le lait. On mélange bien tout ça. Et puis dans un moule beurré, on met nos tranches de brioche rassis, un peu de nos fruits secs par-dessus, re-brioche, re-fruits secs, etc. On fait un millefeuille et on verse l'appareil à la fin. Ça fait une espèce de pudding, en fait. Puisque
pudding.
Mais c'est un pudding.
Il y a l'esprit d'un pudding. Et on va le cuire pendant une heure à 150 degrés au four, au bain-marie. On le sert froid, accompagné de crème anglaise. Et voilà la recette de ce qu'est un diplomate. Et une bonne recette diplomatique.
Est-ce que le diplomate est meilleur que le plum cake de la maison
Bonnat. Ah, de la Bonnat. Maison Bonnat, que nous mangeons régulièrement ici.
Parce que ça me fait penser, mais de loin.
Alors, c'est vrai qu'il y a des fruits secs dans les deux recettes. Oui. Il y a du rhum dans les deux recettes. Oui. Et il y a un côté brioche. C'est vrai que c'est un peu similaire, mais en fait, le diplomate, dedans, il y a une crème qui est prise avec des œufs et avec du lait. Donc, on a vraiment une texture qui est très différente. Hein.
Et on le sert dans les restaurants ? Pas du tout, j'en vois jamais.
C'est un dessert qui a pratiquement disparu. Ah et oui. C'est dommage, surtout quand on l'a... Franchement, faites-le si vous avez quelques tranches de brioche qui sont justement un petit peu rassis. Des œufs, du lait, du sucre, on met tout ça dedans.
Vous mettrez la recette d'un pour
Et si on n'a pas de brioche rassis, est-ce qu'il faut faire rassir la brioche avant de la,
de
la
mettre ? Idéalement, oui, parce que si la brioche est trop fraîche, elle est trop humide, elle va vraiment se désagréger. Et l'idée, c'est de garder un peu de texture, un peu de matière.
Faites sécher une brioche, donc.
Mais sinon, vous la toastez bien au four, ça marche aussi. Ouais.
Ah, petite astuce intéressante. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, diplomate, ben je vais l'être, même si je vous incite à vous battre. On va jouer avec l'histoire, c'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Bon, vous connaissez le principe, une question pour chacun. En cas de départage, il faut s'approcher au plus près du chiffre que je vous demanderai. Olivier, je commence avec vous, c'est la tradition, on ne sait pas pourquoi. Si vous allez place de la Concorde, n'oubliez pas que c'est ici que Louis XVI a été décapité, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on y trouve l'obélisque de la Concorde. Et ça, c'est grâce à Mohamed Ali. C'est vrai ou c'est faux ?
Grâce ? Qu'est-ce que Mohamed Ali pourrait avoir ? Sans Mohamed Ali, il n'y aurait pas l'obélisque.
Ce que dit la question.
C'est forcément vrai, parce que sinon, où serait-on aller chercher une débilité pareille, quoi. Bon, évidemment que c'est vrai. Merci Mohamed Ali.
Alors, c'est vrai, mais pas pour les raisons.
Ne nous méprenons pas. Oui. C'est pas Mohamed Ali,
le
boxeur.
Mais non, c'est Mohamed Ali, son homonyme.
Le vice-roi d'Égypte, le Khedive.
Qui l'a offerte.
Oui, bien sûr,
Mohamed Ali. Comme tu l'avais parfaitement compris, Olivier.
Bon. David, l'homme qui a fait la musique de la chanson La Foule pour Édith Piaf a aussi été son amant. C'est vrai ou c'est faux ?
Et il s'appelait Mohamed Ali, mais c'était encore un autre.
Pas des thématiques comme ça. C'est tellement... Elle a été son amant, c'est vrai, c'est faux. J'ai envie de dire c'est faux.
Bonne réponse. C'était trop facile. Que les paroles sont certes de Michel Rivegauche, mais la musique vient d'une valse péruvienne qui s'appelle « Que nadie sepa mi sufrir ». Écoutons.
Amor de mis amores, si dejaste de quererme,
ah oui,
no hay cuidado que
ça c'est antérieur.
Oh là là, appropriation culturelle.
Ah oui. Et est-ce que le groupe de l'époque a touché les royalties? Ils ont...
J'imagine, elle a fait ça dans les règles quand même. Quand c'est une Piaf qui fait attention.
Oui, comme Coco Chanel.
Voilà, deux bonnes réponses. Une troisième, nous l'espérons, Mathieu Noël. Le premier Shrek est sorti sur grand écran il y a 20 ans.
Le premier Shrek ?
Shrek. Et dans le cinéma, il y a eu un deuxième Shrek. Max Shrek, c'est le nom de l'acteur qui joue le vampire dans le film Nosferatu. Vrai ou faux ?
Max Shrek, ça se trouve, il aura joué dans je ne sais quel film pornographique qui aura marqué votre vie. Bon,
tout est possible.
Je dis que c'est vrai. Oui, c'est Max Shrek.
Ben voilà, vous le saviez. C'est cet acteur allemand, Max Schreck, qui soldat dans l'armée allemande, qui a joué Nosferatu en 1922.
Bravo. Je suis très heureux de le savoir.
Oui. Donc, vous avez tous les trois donné une bonne réponse. Donc, tous les trois, vous pouvez participer à la question qui départage. En 1966, c'est la naissance de la confrérie des maîtres pipiers de Saint-Claude. C'est dans cette ville qu'un jour, un négociant de passage a présenté une pipe dont le fourneau ne brûlait pas car il était en bois de bruyère. Ça, ça s'est passé en quelle année ?
Le truc de la pipe qui brûlait pas.
Exactement. Ouais.
Mais il y avait déjà d'autres pipes à l'époque qui, elles, brûlaient ou on n'y était pas du tout
Non,
c'est... L'expert des pipes. Mais met une réponse au hasard, comme on fait toujours. Et on verra
voilà, c'est une année qui doit vous parler, vous, Olivier. Alors, David, quelle année ?
1340.
Oh mon Dieu, la pipe est ancienne.
Pipe. Moi, j'ai mis une date rigolote. 1789.
1789.
Ça, c'est une date que je connais de
moi, j'ai mis 1855, parce que je connais bien cette date.
C'est touché juste.
Ah 1855.
Vous lui avez donné la réponse.
Non, il m'a pas donné la réponse.
Bah, j'ai dit, c'est une date qui doit vous parler.
Je ne jouerai plus à ce jeu. C'est truqué. Les dés sont pipés.
J'ai pas donné de date. Je n'ai pas aidé.
Il faut une autre question. Une autre question.
Les dates qui doivent vous parler.
Je vais les règles, alors j'ai dit que il a gagné. C'est Olivier Bouls qui passe en tête.
Merci
qui vient
de votre
dépasser David.
Oh, en fait, c'est une date historique.
Et le plus nul, on me dit le plus nul en histoire, c'est vraiment Mathieu Noël.
Ça, c'est sûr, je suis très très. Moi, je pense qu'il faudrait aller jusqu'en mai. Si je gagne tous les jeux jusqu'en mai, je peux peut-être repasser devant. Eh bien, écoutez, un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Il était consacré à ces personnages de l'histoire qui ont refusé de faire leur service militaire. Picasso, Harold Pinter et Jean Rousseau. Est-ce que vous avez jamais regretté, vous Stéphane, d'avoir été réformé P4?
Non, vous savez, je vis sans regret. Et franchement, juste après mon non-passage au service militaire, ils l'ont supprimé.
Ah oui, donc
franchement.
C'était l'année de
juste après, c'était... Oui,
oui à 10 ans près, quoi.
C'est vrai.
C'était en 96, quand même. Ouais. Donc
demain, un programme qui fleure bon la pédale, Stéphane.
Oh, c'est si joliment dit, mon cher Mathieu. Et avec vous, je sais, c'est sans aucune arrière-pensée. Oui, oui, demain, on réunit des reines de la petite reine. Annie Londonderry, qui a fait le tour du monde en vélo. L'italienne Alfonsina Strada, surnommée par ses adversaires masculins le diable en jupon.
Et vous passerez devant, hein, je sucerai votre roue, comme on dit dans le jargon. Et je vous raconterai aussi le destin de Jeannie Longo, star française du vélo, bien sûr.
Ah oui, non, mais ça va être sympa demain. À demain, Mathieu, à demain, les amis.
À demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.